Chapitre 10. Où, la lunette aux yeux, la sonde à la main, on cherche à retrouver quelques vestiges de la province d'Alger. La Dobryna, admirablement et solidement construite dans les chantiers de l'île de Wight, était une excellente embarcation de 200 tonneaux, qui eût parfaitement suffi à un voyage de circumnavigation. Colomb et Magellan n'eurent jamais, à beaucoup près, de navires ni aussi grands ni aussi sûrs lorsqu'ils s'aventurèrent à travers l'Atlantique et le Pacifique. En outre, la Dobryna avait pour plusieurs mois de vivre dans ses cambuses, ce qui, le cas échéant, lui permettrait de faire le tour de la Méditerranée sans être obligé à se ravitailler en route. Il faut ajouter qu'il n'avait pas été nécessaire d'accroître son lest à l'île Gourbi. En effet, si elle pesait moins, comme tous les objets matériels depuis la catastrophe, l'eau qu'il apportait pesait moins aussi. Le rapport des deux poids était donc exactement le même, et la Dobryna se trouvait dans les mêmes conditions de navigabilité. Le comte Timascheff n'était pas marin. Aussi la direction, sinon le commandement de la goélette, appartenait-elle au lieutenant Procope. Ce lieutenant était un homme de 30 ans. Né sur les terres du comte, fils d'un serf affranchi bien avant le fameux édit du tsar Alexandre, par reconnaissance autant que par amitié, il appartenait corps et âme à son ancien maître. Excellent marin, ayant appris son métier à bord des navires de l'État et sur les bâtiments de commerce, il était pourvu du brevet de lieutenant lorsqu'il passa sur la Dobryna. C'était à bord de cette goélette que le comte Timascheff naviguait la plus grande partie de l'année, parcourant la Méditerranée pendant l'hiver, pendant l'été sillonnant les mers du Nord. Le lieutenant Procope était un homme très instruit, même en dehors des choses de son métier. Il faisait honneur au comte Timascheff et à lui-même, ayant acquis une instruction digne de celui qui l'avait fait élever. La Dobryna ne pouvait être en des mains meilleures. En outre, son équipage était excellent. Il se composait du mécanicien Tiglef, des quatre matelots Niegosch, Tolstoï, Etkef, Panovka, du cuisinier Moschel, tous fils de tenanciers du comte Timascheff, qui continuaient sur mer les traditions des grandes familles russes. Ces marins ne s'inquiétaient pas autrement du trouble apporté à l'ordre physique, du moment que leur ancien maître partageait leur destinée. Quant au lieutenant Procope, il était fort inquiet et savait bien qu'au fond, le comte Timascheff éprouvait la même inquiétude. La Dobryna courait donc dans l'est, mue par ses voiles et sa vapeur, car le vent était favorable, et elle aurait certainement marché avec une vitesse de 11 nœuds à l'heure, si les hautes lames n'eussent à chaque moment cassé cette vitesse. En effet, bien que le vent qui soufflait de l'ouest, maintenant le nouvel est, ne fût qu'à l'état de belle brise, la mer était, sinon très forte, du moins soumise à des dénivellations considérables. Et cela se comprenait. Les molécules liquides, moins pesantes, grâce à la moindre attraction de la masse terrestre, s'élevaient par un simple effet d'oscillation à des hauteurs énormes. De son temps, Arago, qui ramenait au chiffre maximum de 7 à 8 mètres, l'élévation possible des plus hautes lames eût été singulièrement surpris en les voyant porter jusqu'à 50 et 60 pieds. Et ce n'était point de ces lames déferlantes qui rebondissent après s'être entrechoquées, mais de longues ondulations, et elles imprimaient parfois à la goélette des différences de niveau de 20 mètres. La Dobryna, moins lourde aussi par la décroissance de l'attraction, s'élevait avec plus de facilité. Et franchement, si le capitaine Servadac eût été sujet au mal de mer, il aurait été bien malade dans de telles conditions. Cependant, ces dénivellations ne se produisaient pas brusquement, car elles n'étaient dues qu'à une sorte de houle très allongée. Aussi, la goélette ne fatiguait pas plus, en somme, que si elle eût été soumise à l'attraction des lames ordinairement si courtes et si dures de la Méditerranée. Le seul inconvénient du nouvel état de choses était surtout une diminution de la vitesse normale de l'embarcation. La Dobryna suivait, à une distance de 2 à 3 km environ, la ligne qu'aurait dû occuper le littoral algérien. Il n'y avait aucune apparence de terre dans le sud. Bien que le lieutenant Procope ne fût plus à même de relever la situation de la goélette par l'observation des planètes, dont les positions respectives étaient troublées, et quoiqu'il ne pût faire son point, c'est-à-dire obtenir sa longitude et sa latitude en calculant la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, puisque le résultat de son calcul n'aurait pu être reporté utilement sur des cartes établies avant le nouveau système cosmographique, cependant, la route de la Dobryna pouvait être relevée d'une manière assez approximative. D'une part, l'estime du chemin parcouru obtenu au moyen du loc, de l'autre, la direction exactement indiquée par la boussole était suffisante pour cette petite navigation. Il faut dire que, très heureusement, la boussole n'avait été ni troublée ni affolée, même un seul instant. Les phénomènes cosmiques n'avaient eu aucune influence sur l'aiguille aimantée, qui marquait toujours le nord magnétique dans ses parages, à 22 degrés environ du nord du monde. Si donc l'est et l'ouest s'étaient substitués l'un à l'autre, en ce sens que le soleil se levait à l'occident et se couchait à l'orient, le nord et le sud avaient immuablement gardé leur position dans l'ordre des points cardinaux. On pouvait donc s'en rapporter aux indications de la boussole et du loc, à défaut du sextant dont l'usage était impossible, du moins provisoirement. Pendant ce premier jour d'exploration, le lieutenant Procope, plus instruit en ces matières que l'officier d'état-major, lui expliqua ses différentes particularités en présence du comte Timachev. Il parlait parfaitement français, comme la plupart des Russes. La conversation avait naturellement porté sur ces phénomènes, dont la cause échappait encore au lieutenant Procope tout aussi bien qu'au capitaine Servadac. Or, précisément, et dès le début, il fut question du nouvel orbe que traçait le globe terrestre à travers le monde solaire depuis le 1er janvier. « Il est évident, capitaine, dit le lieutenant Procope, que la Terre ne suit plus sa route habituelle autour du Soleil, dont une cause inconnue l'a singulièrement rapprochée. » « Je n'en suis que trop certain, répondit le capitaine Servadac. Et la question maintenant est de savoir si, après avoir coupé l'orbite de Vénus, nous n'irons pas couper l'orbite de Mercure. Pour tomber en fin de compte et nous anéantir sur le Soleil, ajouta le comte Timachev. Ce serait alors une chute et une chute terrible, s'écria le capitaine Servadac. Non, répondit le lieutenant Procope. Je crois pouvoir affirmer que ce n'est pas une chute dont la Terre est menacée en ce moment. Elle ne se précipite pas vers le Soleil, et c'est incontestablement une nouvelle trajectoire qu'elle décrit autour de lui. « As-tu donc une preuve à l'appui de cette hypothèse ?» demanda le comte Timachev. « Oui, père, répondit le lieutenant Procope, et une preuve qui te convaincra. En effet, si c'était une chute que subissait le globe terrestre, la catastrophe finale se produirait à bref délai, et nous serions extrêmement rapprochés déjà de notre centre attractif. Si c'était une chute, c'est que la vitesse tangentielle, qui, combinée avec l'action solaire, fait circuler les planètes suivant des ellipses, aurait été subitement anéantie, et dans ce cas, la Terre ne mettrait que 64 jours et demi à tomber sur le Soleil. « Et vous en concluez ?» demanda le capitaine Servadac. « Qu'il n'y a pas de chute, répondit le lieutenant Procope. En effet, voilà plus d'un mois déjà que son orbite a été modifiée, et cependant, c'est à peine si le globe terrestre a dépassé celle de Vénus. Il ne s'est donc rapproché du Soleil, dans ce laps de temps, que de 11 millions de lieues sur 38 millions que mesure le rayon terrestre. Donc, nous avons le droit d'affirmer que ce n'est point une chute que subit la Terre. C'est là une circonstance très heureuse. D'ailleurs, j'ai lieu de croire que nous commençons à nous éloigner du Soleil, car la température a progressivement diminué, et la chaleur n'est pas plus forte maintenant à la surface de l'île Gourbi qu'elle ne le serait en Algérie, si l'Algérie se trouvait encore située sur le 36e parallèle. « Vous devez avoir raison dans vos déductions, lieutenant, répondit le capitaine Servadac. Non, la Terre n'est pas précipitée sur le Soleil, et elle gravite encore autour de lui. Mais il est non moins évident, reprit le lieutenant Procope, que, par suite du cataclysme dont nous cherchons vainement la cause, la Méditerranée, comme le littoral africain, a été brusquement reportée sous la zone équatoriale. S'il y a encore un littoral africain, dit le capitaine Servadac, et une Méditerranée, ajouta le comte Timachev. Autant de questions à résoudre. En tout cas, il paraissait certain qu'à cette époque, la Terre s'éloignait peu à peu du Soleil, et qu'une chute à la surface de ce centre attractif n'était plus à craindre. Mais que restait-il de ce continent africain dont la goélette cherchait à retrouver au moins les débris ? 24 heures après avoir quitté l'île, la Dobryna avait évidemment passé devant les points qu'aurait dû occuper sur la côte algérienne Ténèse, Cherchel, Coléa, Sidi Ferrouche. Cependant, pas une de ces villes n'avait apparu dans le champ des lunettes. La mer s'étendait à l'infini, là où le continent aurait dû arrêter ses flots. Le lieutenant Procope n'avait pas pu se tromper cependant sur la direction qu'il avait donnée à la Dobryna. En tenant compte des indications de la boussole, de l'orientation assez constante des vents, de la vitesse de la goélette relevée au loch, en même temps que du parcours effectué ce jour-là à la date du 2 février, il pouvait se dire par 36 degrés 47 minutes de latitude et 0 degrés 44 minutes de longitude, c'est-à-dire à la place qu'aurait dû occuper la capitale de l'Algérie. Et Alger, aussi bien que Ténèse, Cherchel, Coléa, Sidi Ferrouche, s'était abîmé dans les profondeurs du globe. Le capitaine Servadac, sourcils froncés, dents serrées, regardait d'un œil farouche l'immense mer qui s'étendait au-delà d'un horizon sans bornes. Tous les souvenirs de sa vie lui revenaient. Son cœur battait à se rompre. Dans cette ville d'Alger, où il avait vécu pendant plusieurs années, il revoyait ses camarades, ses amis qui n'étaient plus. Sa pensée se reportait sur son pays, sur la France. Il se demandait si l'épouvantable cataclysme n'avait pas poussé jusque-là ses ravages. Puis il essayait de chercher, sous ses eaux profondes, quelques traces de la capitale engloutie. « Non ! » s'écriait-il. « Une telle catastrophe est impossible. Une ville ne disparaît pas ainsi tout entière. On en retrouverait des épaves. Les hauts sommets auraient émergé. De la Casbah, du fort l'Empereur, bâti à 150 mètres de hauteur, il resterait au moins quelques portions au-dessus des flots. Et à moins que toute l'Afrique ne soit descendue dans les entrailles du globe, il faut bien que nous en retrouvions les vestiges. » C'était en effet une circonstance fort extraordinaire, que pas une épave ne flottât à la surface de la mer, pas un seul de ces arbres brisés dont les branches auraient dû aller en dérive, pas une planche de ces bâtiments mouillés dans la magnifique baie large de 20 kilomètres qui s'ouvrait un mois auparavant entre le cap Matifou et la pointe Pescade. Mais si le regard s'arrêtait à la surface de ces eaux, ne pouvait-on les interroger avec la sonde et tenter de ramener quelque épave de la ville si étrangement disparue ? Le comte Timachev, ne voulant pas qu'un doute pût exister dans l'esprit du capitaine Servadac, donna l'ordre de sonder. Le plomb de sonde fut garni de suif et envoyé par le fond. À l'extrême surprise de tous, et plus particulièrement à l'extrême étonnement du lieutenant Procope, la sonde indiqua une côte de nivellement presque constante, à 4 ou 5 bras seulement au-dessous du niveau de la mer. Cette sonde fut promenée pendant 2 heures sur un large espace, et elle n'accusa jamais ces différences de niveau qu'aurait dû présenter une ville telle qu'Alger, bâtie en amphithéâtre. Fallait-il donc admettre que, la catastrophe produite, les eaux eussent nivelé tout cet emplacement de la capitale algérienne? C'était bien invraisemblable. Quant au fond de la mer, il ne se composait ni de roches, ni de vases, ni de sable, ni de coquilles. le plomb ne ramena qu'une sorte de poussière métallique, remarquable par ses irisations dorées, mais dont il fut impossible de déterminer la nature. Ce n'était pas, à coup sûr, ce que les sondes rapportaient habituellement du fond méditerranéen. « Vous le voyez, lieutenant, » dit Hector Servadac, « nous sommes plus loin de la côte algérienne que vous ne le supposiez. » « Si nous en étions plus loin, » répondit le lieutenant Procope en secouant la tête, « nous n'aurions pas seulement 5 brasses de profondeur, mais 200 ou 300. » « Alors, » demanda le comte Timachef, « je ne sais que penser. »« Monsieur le comte, » dit le capitaine Servadac, « je vous le demande en grâce, poussons une pointe au sud, et voyons si nous ne trouverons pas plus loin ce que nous cherchons vainement ici. » Le comte Timachef conféra avec le lieutenant Procope, et, le temps étant maniable, il fut convenu que, pendant 36 heures encore, la Dobryna descendrait vers le sud. Hector Servadac remercia son hôte, et la route nouvelle fut donnée au timonier. Pendant 36 heures, c'est-à-dire jusqu'au 4 février, l'exploration de cette mer fut faite avec le soin le plus scrupuleux. On ne se contenta pas d'envoyer sous ses eaux suspectes la sonde, qui accusa partout un fond plat par 4 ou 5 brasses. Mais ce fond fut raclé avec des dragues de fer, et ces dragues ne rencontrèrent jamais ni une pierre taillée, ni un débris de métal, ni un morceau de branche brisée, ni même une seule de ces hydrophytes ou de ces zoophytes dont est ordinairement semé le sol des mers. Quel fond s'était donc ainsi substitué à l'ancien fond méditerranéen? La Dobryna descendit jusqu'au 36e degré de latitude. En relevant les terres portées sur les cartes du bord, il fut constant qu'elle naviguait là où devait jadis s'étendre le Sahel, massif qui sépare de la mer la riche plaine de la Mitidja, là où dominait autrefois le point culminant de la Bouzarrea, à une hauteur de 400 mètres. Et cependant, même après l'engloutissement des terres environnantes, ce sommet aurait dû encore apparaître comme un îlot au-dessus de cet océan. La Dobryna, descendant toujours, alla plus loin que Douéra, la principale bourgade du Sahel, plus loin que Boufarik, la ville aux larges rues ombragées de platanes, plus loin que Blida, dont on n'apercevait même pas le fort, qui surpassait l'Oued el-Kébir de 400 mètres. Le lieutenant Procope, craignant de s'aventurer plus au loin sur cette mer absolument inconnue, demanda alors à revenir vers le nord ou l'est. Mais, sur les instances du capitaine Servadac, la Dobryna s'enfonça de plus en plus dans le sud. L'exploration fut donc prolongée jusqu'à ces montagnes de la Mouzaïa, aux grottes légendaires, que fréquentaient autrefois les Kabyles, que boisaient les caroubiers, les micocouliers et les chênes de toute espèce, qu'habitaient les lions, les hyènes et les chacals. Leur plus haut sommet, qui se dressait 6 semaines auparavant entre le bout Roumi et la Chifa, aurait dû émerger à une hauteur considérable au-dessus des flots, puisque son altitude dépassait 1600 mètres. On ne vit rien, ni à cette place, ni à l'horizon, sur lequel se confondaient le ciel et la mer. Il fallut enfin revenir au nord, et la Dobryna, virant cap pour cap, se retrouva dans les eaux de l'ancienne Méditerranée, sans avoir retrouvé aucun vestige de ce qui constituait autrefois la province d'Alger.